Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire de Thierry Paulin, l'un des tueurs en série français les plus énigmatiques de l'histoire du crime. On lui attribue, en partie avec son complice Jean-Thierry Mathurin, 38 meurtres de vieilles dames, entre 83 et 87 à Paris. Lui en a reconnu 21, et quoi qu'il en soit, on ne saura jamais vraiment combien, puisqu'il n'a jamais été jugé. Et pourquoi est-ce qu'il tuait ces vieilles femmes? Eh bien pour leur porte-monnaie, pour l'argent qu'il contenait, et pour se payer le soir des quilles de champagne en boîte de nuit. Pour le débrief, j'ai demandé à Julien Cernobori d'être là. Sous le nom de Cerno l'Anti-Enquête, il a réalisé plus de 100 podcasts autour de l'affaire Thierry Paulin. Interview à écouter dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Mathieu Fret.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Les plus vieux habitants du 18e arrondissement de Paris se souviennent encore, je pense, des mois d'octobre et novembre 1984. On ne peut pas oublier ça. 8 meurtres de vieilles dames en moins de 6 semaines dans le seul 18e. Une hécatombe, une horreur. Le 5 octobre, Anna Pontus, 83 ans, rentre du marché. On la suit, on la pousse dans son appartement, on la bâillonne, on la saucissonne avec le cordon des rideaux, on la frappe au visage et sur le corps et à la fin, on l'étouffe avec un oreiller. Ensuite, on retourne son appartement. Butin, 200 francs, 59 euros d'aujourd'hui. Autrement dit, trois fois rien.
Une toute petite dame, toute menue, qui marchait très difficilement avec une canne, c'était effroyable s'ils l'ont tué.
Et votre avis, pourquoi ils ont fait ça?
Pour lui prendre son argent, sûrement.
Prenez des précautions, bien le parler facilement aux gens, elle ouvrait facilement sa porte.
Mais elle parlait aux gens parce qu'elle était toute seule, et puis qu'elle s'ennuyait, et puis qu'elle était perdue. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je sais que quand je la rencontrais, elle me retenait et on parlait toutes les deux, parce qu'elle avait besoin de parler.
Le même jour, Germaine Petitot est agressée rue Lepic, ligotée, bâillonnée, battue. Mais elle a survécu. Le choc est tel qu'elle ne peut rien raconter. Quatre jours plus tard, le 9, les pompiers interviennent pour un incendie rue Nicolet. Et ils découvrent le corps de Suzanne Foucault. 89 ans, pieds et poings liés, étouffé par un sac plastique. On lui a volé sa montre et 500 francs en liquide, 140 euros d'aujourd'hui. Un mois plus tard, le 5 novembre.
Nous avons un homicide au 60 boulevard de Clichy, Paris 18e. La victime est une femme de 71 ans, dénommée Johanna Secaresco. Sierra, Echo, India, Charlie, Alpha, Romeo, Echo, Sierra, Charlie, Oscar.
Johanna, 71 ans, est morte étranglée, nez fracturé, mâchoire et côte brisée. On l'a torturée pour qu'elle dise où elle avait caché son argent. 10 000 francs en bons du trésor. 2 800 euros d'aujourd'hui. Envolé. Deux jours plus tard, rue Marc Seguin, on retrouve le corps d'Alice Benaim, 84 ans, étranglé, pieds et poings liés avec du fil électrique. On l'a torturé en lui faisant boire du desktop. Et le butin est misérable, moins de 500 francs. Cette litanie vous est insupportable? Malheureusement, je crains qu'elle ne soit pas finie. Le lendemain, à 20 mètres de là, on retrouve Marie Choix, 80 ans, torturée et étouffée pour 300 francs. Et encore le lendemain, Maria Mikodia, 75 ans, on l'a étouffée avec un torchon, son corps est couvert de coups de couteau. On lui a aussi coupé un petit doigt. Et tout ça pour 200, 300 francs, pas plus.
Alors là, maintenant, elles ont peur. Hein. Elles sont réellement affolées, maintenant, les mémés. Hein. Même des fois, il y en a qui s'attendent à partir ensemble. Là, j'en connais deux, trois, elles s'attendent pour aller faire leurs courses et puis rentrer.
Et la police, qu'est-ce qu'elle peut faire, d'après vous, dans tout ça?
Bah, la police, d'abord, il n'y en a pas assez. Alors, en cas de coup dur, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent?
Vous pensez qu'un jour, on arrivera à arrêter ces assassins?
Bah, c'est pas que je le pense, et je le souhaite toujours. Et pas leur faire de cadeaux. Et pour des cas comme ça, c'est la peine de mort. La peine capitale, on n'aurait jamais dû la supprimer.
Une semaine plus tard, le 12 novembre, on retrouve deux corps dans la même journée. Jeanne Laurent, 82 ans, et Paul Victor, 77 ans. La mort remonte à plusieurs jours. Elles ont toutes les deux la tête dans un sac plastique. Huit vieilles dames tuées plus tard, les policiers du 36 n'ont aucune piste. Si, ils ont des empreintes digitales, on en a retrouvé partout. Mais on les passe au fichier, ça ne donne rien. Imaginez l'atmosphère fin 1984 dans le 18e arrondissement de Paris. 8 morts, 8 vieilles dames en moins de 2 mois sur le même territoire. Il y a de quoi paniquer, non?
Moi, je suis pas rassurée, qu'est-ce que vous voulez? J'ai peur, naturellement, une personne qui est seule là. On peut pas être rassurée, hein? Moi, j'ai beau avoir regardé ce que j'ai. Regardez ce que j'ai pour me défendre. Mais est-ce qu'ils vont me donner le temps? Est-ce qu'ils vont me donner le temps de me défendre?
Qu'est-ce que vous avez là, alors, la forme?
Vous voyez, regardez. Hein?
Et un marteau?
J'ai un marteau, j'ai une hache, mais j'ai pas le droit de m'en servir, soi-disant. On a le droit de se servir du bâton, mais pas ni du marteau, ni de la hache. Je sais même pas si j'aurai le courage de me défendre, hein? J'en sais rien.
Face à la psychose qui monte dans tout l'arrondissement, on déploie 120 policiers dans un rayon de 1500 mètres autour du Sacré-Cœur. Et les politiques, évidemment, s'emparent du sujet, comme des guêpes qui s'abattent sur un pot de confiture. En 1984, ce sont les socialistes qui sont au pouvoir. Et la mairie de Paris est tenue par Jacques Chirac et son adjoint Jean Tiberi.
Il ne suffit pas d'aller s'incliner devant les victimes de ces faits abominables ou de prononcer des discours qui ne rassurent plus personne. La population parisienne attend du gouvernement des actes. Cette angoisse et cette inquiétude que j'exprime en son nom ne sauraient rester sans réponse.
Et puis pendant un an, il ne se passe plus rien. Décembre 1985, ça repart, mais on change de quartier. Le 20 décembre, Estelle Donjou, 91 ans, est retrouvée étranglée chez elle dans le 14e arrondissement. Et 15 jours plus tard, à deux pâtés de maison, André Ladame, 77 ans. Et encore 5 jours plus tard, Yvonne Couronne, 83 ans. Mais pour dire vrai, à ce moment-là, les policiers du 36 ne sont pas certains qu'on puisse relier cette nouvelle vague de meurtres de vieilles dames à celle d'octobre et novembre 84, il y a un an. D'accord, dans les deux cas, le ou les assassins cherchent de l'argent et se contentent de petites sommes. Ok. Mais dans les derniers crimes, enfin, le mode opératoire est vraiment différent. Je veux dire, elles n'ont pas été ligotées. On les a pas non plus torturées. Moi, je suis absolument pas sûr que c'est le même homme. Mais le doute ne dure pas longtemps.
Les empreintes digitales qu'on a retrouvées sur les dernières scènes de crime, là, sont exactement les mêmes que celles identifiées il y a un an. C'est le même homme, commissaire.
Notez bien qu'il vient de dire « le même homme ». Car depuis les trois premiers meurtres de décembre 85, les policiers pensent qu'il est tout seul. En tout cas, maintenant, il est tout seul. Maintenant, pardon si je dois reprendre ma litanie, Le 12 janvier 86, deux nouvelles victimes. Françoise Vendôme, 83 ans, rue de Charenton dans le 12e. Et Margem Jurblum, 81 ans, rue Pelé dans le 11e. Le 15 janvier, Yvonne Schaebel, 77 ans, dans le 5e. Et le 31, Virginie Labrette, 76 ans, dans le 12e. Et puis une nouvelle pause. 6 mois sans meurtre de vieille dame. Mais ça reprend en juin. Le 14 juin, Ludmila Lieberman, retrouvée morte dans le 14e. Et puis ça s'arrête à nouveau. Et puis ça reprend en novembre 87. On retrouve le corps de Rachel Cohen, 79 ans, dans le 10e. Et 2 jours plus tard, celui de Geneviève Germont, 73 ans, toujours dans le 10e. À ce moment-là, on ne le sait pas, mais Geneviève est la dernière victime de cette incroyable série. Parce que quelques jours plus tôt, une femme a survécu à l'attaque du tueur. Elle s'appelle Berthe Finaltieri. Elle n'est pas morte, elle s'est juste évanouie. Et dès qu'elle a ouvert les yeux, elle s'est souvenue de tout.
Oh, ben c'était un noir. Ou plutôt d'ailleurs, je dirais un métis. Avec le nez, vous savez, épaté et les pommettes saillantes. 1m80, environ 25 ans. Les cheveux blonds et crépus.
Et comment en plus un voisin a croisé le tueur dans l'escalier, il peut compléter le portrait.
Il était coiffé à la Carl Lewis, vous voyez. Et puis il avait une boucle d'oreille, à l'oreille gauche, je crois. Oui, c'est ça, à l'oreille gauche.
Grâce à ces deux témoignages, les policiers du 36 fabriquent un portrait robot. Il est immédiatement distribué dans tous les commissariats de Paris. Dans cette enquête, les flics ont pas mal ramé jusqu'ici. Ils sont humiliés et subissent sans doute pas mal de pression. Mais avec la diffusion du portrait robot, ils vont se rattraper. Le 1er décembre 1987, le patron du commissariat du 10e arrondissement, le commissaire Jacob, est dans la rue en train de parler avec des commerçants. Et il aperçoit venant droit sur lui un homme qui, à part la couleur des cheveux, correspond parfaitement au portrait robot. Alors le commissaire n'hésite pas une seconde.
Monsieur, venez ici, s'il vous plaît. Vos papiers.
Le gars lui tend sa carte d'identité. Sur la photo, il est coiffé à la Carl Lewis.
Vous allez me suivre au commissariat, monsieur. Allez, on y va.
Et arrivé au commissariat, on lui prend ses empreintes. Et on les compare avec les empreintes recueillies sur les scènes de crime.
Oh putain, c'est lui. C'est lui le tueur de vieille dame.
Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme.